En mai 2017, des centaines de milliers d'ordinateurs dans des hôpitaux, des gouvernements, des entreprises, ben, ils se sont figés en même temps partout dans le monde.
Ouais, avec le fameux écran rouge.
Exactement, l'écran rouge vif qui demande une rançon en crypto-monnaie pour avoir accès aux données. Fait que c'était l'attaque WannaCry. Puis le pire là-dedans, c'est que le correctif existait déjà depuis des mois.
C'est fou quand on y pense. C'est vraiment un des exemples les plus marquants de notre époque. Ça montre que la technologie de défense a beau être super avancée, ben si on l'applique pas, elle sert absolument à rien.
C'est clair.
On se retrouve avec des systèmes critiques complètement paralysés juste parce qu'une mise à jour a été repoussée.
Alors, décortiquons tout ça. C'est en plein la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On s'appuie sur des notes de cours universitaires, notamment le cours 9, et le site web du professeur Gabriel Gaudreau sur la sécurité de Windows 11.
Et le but, c'est de laisser tomber le jargon technique, hein?
Ah, totalement. On veut comprendre comment et surtout pourquoi un ordinateur moderne se défend. Comment on passe d'une approche réactive où on courait après les virus à une architecture où la machine se protège quasiment d'elle-même.
Puis pour bien encadrer ça, il faut garder en tête la fameuse triade CID.
Confidentialité, intégrité, disponibilité.
C'est ça. C'est la trinité absolue de la sécurité. Chaque fonctionnalité qu'on va aborder aujourd'hui sert au moins un de ces trois piliers-là. L'objectif ultime, c'est de réduire la surface d'attaque. Que l'attaque soit technique, humaine ou même physique.
Bon, par où on commence pour bâtir ce genre de forteresse-là? Parce qu'on s'entend que sécuriser le toit, si les fondations sont en papier, ça donne pas grand-chose.
Non, exact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la sécurité commence pas quand l'écran s'allume. Elle commence dans le matériel physique. Il y a un composant critique là-dedans. C'est la puce TPM 2.0.
Le fameux Trusted Platform Module. Mais tant que j'essaie de me faire une image mentale, au lieu d'avoir un petit coffret de sûreté qu'on peut voler sous le bras, c'est plus comme une chambre forte de banque coulée dans le béton des fondations de l'édifice, non?
Oui, c'est une super belle analogie. La puce est obligatoirement soudée à la carte mère avec Windows 11. Mais c'est pas juste un espace de stockage passif, là. C'est vraiment un cerveau cryptographique indépendant du processeur principal.
OK, donc il gère ses propres affaires de son bar.
En plein ça. Il génère, il stocke et il contrôle les clés de chiffrement et même la biométrie. Puis le point clé, c'est que la clé privée ne quitte jamais la puce TPM.
Attends, donc même si un pirate réussit à prendre le contrôle total du système, mettons qu'il a tous les privilèges d'administrateur suprême, il peut pas juste copier la clé pour l'utiliser ailleurs.
Ben non, justement. Le pirate peut bien demander au TPM de déchiffrer une donnée, mais le TPM va évaluer si l'environnement est sécuritaire avant de dire oui. Il refusera catégoriquement de livrer la clé brute. Ça change complètement la donne.
Wow! Ça, c'est puissant. OK, fait que la fondation physique est solide. Mais ensuite, il faut peser sur le bouton d'alimentation. Et c'est là que le système est historiquement très vulnérable.
Exact. Avant même que l'antivirus ait le temps de se réveiller, un code malveillant pourrait prendre le contrôle.
C'est le royaume des rootkits.
Ouais, ces virus-là s'infiltraient super bas dans l'architecture. Fait que pour bloquer ça, on utilise le démarrage sécurisé, ou Secure Boot, couplé à l'UEFI de la carte mère. Ça crée ce qu'on appelle une chaîne de confiance en 7 étapes.
Comment ça marche concrètement, une chaîne de confiance? C'est comme une course à relais?
C'est exactement ça. Chaque coureur doit prouver son identité avant de passer le témoin. De l'allumage physique jusqu'au lancement des applications, le matériel vérifie la signature numérique du chargeur d'amorce en premier.
Et si c'est valide, on passe à l'étape suivante.
C'est ça. Le chargeur vérifie le noyau du système. Ensuite, le noyau vérifie les pilotes matériels. Chaque maillon valide mathématiquement le suivant. S'il y a un seul bit altéré par un rootkit, la signature ne correspond plus et le démarrage est bloqué net.
Mais si la chaîne de confiance vérifie méticuleusement chaque maillon au démarrage, ça ne crée pas un goulot d'étranglement majeur pour la vitesse de l'ordinateur. Ça devrait être super lent, logiquement.
Ce qui est fascinant ici, c'est que tout ce processus-là s'effectue en une fraction de seconde.
Vraiment? Si vite que ça?
Oui, grâce à l'architecture matérielle des processeurs. On garantit le pilier de l'intégrité sans sacrifier la performance de la machine.
C'est fou! Puis le système pousse ça encore plus loin avec l'isolation du noyau, ce qu'on appelle le VBS ou Core Isolation, et l'intégrité de la mémoire, le HVCI. De ce que je comprends, on isole les processus critiques de l'OS principal.
Oui, et l'exemple parfait pour ça, c'est le processus LSSAS.
Celui qui gère les mots de passe.
Exact. Au lieu de laisser ce service vital exposé dans la mémoire vive normale, on utilise la virtualisation pour le mettre dans une bulle isolée. C'est un mur de briques qui empêche un pirate de voler les mots de passe en mémoire.
Bon, la forteresse est blindée de la carte mère à la mémoire, mais avoir des fondations en béton armé, ça sert à rien si on laisse la clé sur la porte. Ça nous amène à l'humain.
Le contrôle aux portes de la forteresse.
Fait comment le système s'assure que la personne devant le clavier est la bonne? On commence avec le principe du moindre privilège, utiliser des comptes standards au lieu d'administrateur.
Oui, parce que le danger d'être toujours administrateur, c'est que si tu cliques sur un mauvais fichier, le virus hérite silencieusement de tes pouvoirs absolus.
Le problème, c'est que les gens détestent être bloqués. C'est pour ça qu'on a l'UAC, le User Account Control, avec ses 4 niveaux de sécurité.
La fameuse fenêtre qui assombrit l'écran.
Oui, je te jure, c'est fou le nombre de gens qui cherchent sur Internet comment désactiver cette fenêtre-là parce qu'ils la trouvent gossante.
C'est une erreur fondamentale. Le professeur Gaudreau rappelle une règle d'or très simple, ne jamais le désactiver. L'UAC, c'est pas juste un pop-up, c'est un bureau sécurisé distinct.
Aucun autre programme peut cliquer sur « oui » en notre place, hein?
Exactement. Ça force une élévation de privilèges volontaire.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que dans nos sources, on parle de Windows Zello, la reconnaissance faciale infrarouge, les empreintes digitales et le code PIN. Et il y a un truc qui m'a fait sursauter.
Ah oui, quoi donc?
Attends un peu. Les notes affirment qu'un simple code PIN à 4 ou 6 chiffres est plus sécuritaire qu'un mot de passe complexe de 16 caractères. Comment c'est mathématiquement possible?
C'est super contre-intuitif, on s'entend. On nous répète de faire des mots de passe compliqués depuis 20 ans.
Totalement illogique à première vue.
Mais pour comprendre ça, il faut voir la perspective plus large. Le NIP ne voyage jamais sur le réseau.
Contrairement au mot de passe qui, lui, crée un hash qui circule sur Internet.
En plein ça. Les attaquants interceptent ce hash-là. C'est ce qu'on appelle les attaques passe de hash. Ils n'ont pas besoin du mot de passe en clair, juste de l'empreinte interceptée pour se connecter.
Et le NIP, lui, il reste sagement à la maison.
Exact. Il sert uniquement à déverrouiller la puce TPM locale de ton ordinateur. Un pirate en Russie peut intercepter tout ton réseau. Il fera rien avec un NIP s'il n'a pas ta machine physique entre les mains.
Ah, voilà la nuance. Mais mettons qu'on joue l'avocat du diable. Si un voleur s'empare littéralement de mon ordinateur portable dans un café, il a la machine physique entre les mains.
Et c'est là que BitLocker entre en jeu. C'est le chiffrement des données au repos.
J'adore le concept. C'est comme transporter une valise remplie de documents, mais tout est écrit dans une langue extraterrestre. Même si le voleur prend le disque dur, il peut rien lire sans le TPM qui sert de traducteur universel.
C'est une métaphore parfaite. BitLocker chiffre tout avec l'algorithme AES, souvent en 128 ou 256 bits. C'est virtuellement impossible à casser par force brute.
Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse clé de récupération à 48 chiffres.
Absolument. Si ta carte mère brise, le TPM est mort. Si tu n'as pas sauvegardé tes 48 chiffres à l'extérieur de la machine, tes données sont perdues à jamais, même pour toi. Le chiffrement garantit la confidentialité de façon brutale.
C'est bon pour le vol physique, mais comment on repousse les attaques actives venant du web, les ransomwares, comme on en a mentionné au début?
La gestion critique des mises à jour Windows Update, ta part. C'est ce qui assure la disponibilité du système. Ensuite, tu as Microsoft Defender.
L'antivirus intégré?
Oui, mais c'est plus juste des signatures aujourd'hui. Il utilise les rustiques et l'analyse cloud. Au lieu de chercher le nom de virus connu, il analyse les comportements louches.
D'ailleurs, les notes du cours parlent de l'utilisation du fichier ICAR. C'est quoi ça, le test sans danger?
C'est super ingénieux. Le fichier IASER, c'est juste une petite ligne de texte inoffensive, mais toute l'industrie de la cybersécurité s'est entendue pour le traiter artificiellement comme une menace critique.
Ah, fait que ça permet de tester si nos boucliers fonctionnent sans manipuler un vrai virus.
Exactement. Et en parlant de boucliers, pour Internet, on a Smart Screen qui vérifie la réputation des fichiers téléchargés et le pare-feu Windows Defender.
Celui qui gère les profils domaine, privé et public, selon l'endroit où on se connecte.
Oui, il ajuste les règles de trafic dynamiquement.
Mais que se passe-t-il si un programme malveillant réussit tout de même à s'infiltrer? Le risque zéro n'existe pas, tu sais.
C'est clair. Fait que le système a des caméras internes et des salles de quarantaine. La meilleure salle, c'est l'isolation système avec Windows Sandbox.
Le bac à sable. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est comme avoir une salle blanche stérile dans sa maison. On entre, on ouvre un colis suspect et quand on sort, on vaporise la pièce entière.
C'est exactement ça. C'est un environnement temporaire jetable. Absolument rien de ce que tu fais là-dedans ne touche ton système principal. Tu as aussi le mode S, qui limite carrément les installations au Microsoft Store.
Et pour le contrôle des applications en général, on mentionne AppLocker et WDAC. Pour limiter l'exécution depuis des dossiers à risque, comme le fameux dossier temporaire, le pourcentage TMP pourcentage.
Oui, parce que par défaut, les utilisateurs ont le droit d'écrire dans leur dossier TEMP. Les pirates le savent, fait qu'ils téléchargent la charge utile silencieusement là-dedans. Avec AppLocker, le système refuse de l'exécuter, point final.
C'est à des journaux d'événements, des logs, qui semblent réservés aux informaticiens. Je parle de l'observateur d'événements.
Ben, c'est parce que ça permet de démocratiser la sécurité. C'est ton Pablo de bord.
Mais c'est juste des chiffres, non?
Oui, mais chaque ID raconte une histoire. L'ID 4624, c'est un succès de connexion.
OK.
Mais l'ID 4625, c'est un échec. Si tu vois une avalanche d'erreurs 4625 dans ton propre observateur, c'est que tu vois en temps réel une attaque se fracasser contre tes boucliers. Tu vois une attaque par force brute de tes propres yeux.
Wow, c'est rendre l'invisible visible. Il y a aussi l'événement 7045 qui était mentionné pour un nouveau service installé, souvent un vecteur d'attaque fréquent.
En plein ça, et tu peux surveiller tout cet écosystème-là via la commande Windows Defender centralisée.
Alors, que signifie tout cela? On a fait tout un voyage, on est passé de la puce physique soudée à la carte mère, à l'identification biométrique, au brouillage des données, jusqu'aux caméras logicielles.
C'est un écosystème complet où chaque couche protège la suivante.
C'est super impressionnant.
Oui, et ces sources démontrent que techniquement et matériellement, le système d'exploitation est devenu une forteresse quasi impénétrable par défaut.
C'est un bel accomplissement technique.
Mais ça soulève une question troublante pour ceux qui nous écoutent. Si la machine devient techniquement parfaite, est-ce que les pirates informatiques vont un jour cesser complètement de programmer des virus pour se concentrer à 100% sur la manipulation psychologique?
Ouf, ouais. Le phishing, l'ingénierie sociale.
Exactement. En d'autres termes, l'être humain est-il en train de devenir la toute dernière faille de sécurité impossible à corriger par une mise à jour?
Wow! Ça, c'est une pensée provocatrice. On a des TPM, du Secure Boot, des bacs à sable stériles, mais on peut toujours donner volontairement nos clés aux voleurs. Ça laisse un grand sentiment de maîtrise technique, mais aussi une belle responsabilité personnelle. C'est là-dessus qu'on va terminer cette analyse d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous.